Alors, Patrick Saint-Lamy, votre invité d'aujourd'hui. Alors, il est professeur de sociologie à l'Université de Paris maintenant.
De Paris, oui, maintenant, oui, c'est ça.
Spécialiste, si l'on peut dire ainsi, du travail précaire, de la précarité, avec des publications comme « L'exil du précaire »,« Révolution précaire » ou « La précarité, en qu'essai-je ?» qui date de 2017 dans sa cinquième édition, mise à jour, donc ça a un certain succès, « La précarité ». Je dirais que, avec son dernier livre qui s'appelle « La colonisation quotidienne » paru chez Amsterdam en juin 2021, Patrick Saint-Lamy pourrait également s'appeler le pape de la précarité, car maintenant, la numérisation, qu'on appelle la plateformisation d'une autre façon, donne encore plus de grain à moudre à cette réflexion sur la précarisation, sur la précarité et sur le travail humain. De même que, d'ailleurs, sur les activités gratuites, l'économie de plateforme, étant, comme Patrick Saint-Lamy, que je cite, le dit, une plateforme pour l'usage de l'externalisation, donc une sorte de paradigme nouveau de l'externalisation des activités gratuites qui s'ajoutent au travail tel qu'on le connaît dans l'approche classique. Donc avec cette présentation très brève, je laisse la parole à Patrick Saint-Lamy, s'il veut ajouter quelque chose sur lui-même que je n'aurais pas dit.
Non, c'est bien, c'est bien. Disons que à la dimension d'analyse de la question de à la fois de la précarité, des précaires, parce que j'insiste sur cette figure historique des précaires qui a caractérisé, disons, les années 80. À cela s'ajoute quand même une réflexion également sur les figures sociales et politiques, disons, du conflit aujourd'hui et des alternatives aujourd'hui. En tout cas, pour moi, autour, par rapport à un certain discours qui a été relativement hégémonique sur la question de la précarité, hein, il y a eu un succès, si je puis dire, de la précarité, disons, depuis très longtemps, j'ai essayé toujours de travailler, évidemment, je reconnais tout à fait l'importance de ce concept de précarité, mais aussi de travailler toujours à distance d'une certaine figure de la vulnérabilité pour essayer d'aborder finalement des figures alternatives qui ont précisément été portées par les précaires, notamment autour des années 70-80 et autour des gens qui, dans cette époque, se caractérisaient par la thématique de l'autonomie et tout l'enjeu de l'autonomie, disons, et notamment de l'autonomie ouvrière dans ces années 70-80 en France à travers tout un ensemble de publications. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas dans ma carrière où j'ai essayé pas mal de parler de subjectivité, etc., etc., et où je ne me suis pas quand même très, très longuement attardé sur la question de l'objectivité, de l'objectivisme et de l'analyse objective. Finalement, en fin de carrière, comme ça, je me suis dit je vais parler des plateformes et je vais vous expliquer. Dans un premier temps, pourquoi, juste au passage, j'ai oublié de vous remercier, je vous prie de m'excuser, mais comme il y avait un enchaînement, je vous remercie encore pour l'invitation. Je vais essayer, en préalable, disons, de vous expliquer pourquoi, autour de la soixantaine, je me suis mis à m'intéresser à la question de la numérisation et à la question des plateformes. Et en fait, pour comprendre ce phénomène, là, je vais vous en parler dans l'introduction, ensuite je vais déplier un certain nombre d'enjeux autour des plateformes et autour de l'enjeu de l'externalisation en préalable et de la continuité entre travail précaire et externalisation. Mais avant, donc, je voudrais juste rappeler comment je suis passé, au fond, comment il y a une continuité qui m'est apparue entre, la problématique du travail précaire et plus généralement également celle de la sous-traitance et puis l'émergence de ce capitalisme de plateforme. Et c'est ce qui m'a... en fait, ce n'est pas par un goût particulier pour le numérique qui m'a poussé effectivement à me tourner vers cet enjeu du numérique. C'est d'abord, au fond, le sentiment qu'il y avait une continuité et qu'il y avait une continuité à penser de ce côté-là. Donc là, j'ai rappelé deux ouvrages. D'autres ont été évoqués où le signifiant précaire apparaît. Et cela pour juste rappeler qu'effectivement, depuis une trentaine d'années, j'ai essayé de sonder à la fois, effectivement, dans les dispositifs même du travail précaire et du côté des nouveaux comportements, essayer de se sonder à la fois cette question de la précarité et des précaires. Mais justement, pour revenir à ce qui a été un peu le ressort de ma démarche, je dirais que dans les années 70-80, mais dès les années 60, en fait, la question du travail précaire va intéresser tout un ensemble de sociologues, de chercheurs, etc., et vont être immédiatement, notamment j'en ai remis quelques-uns, hein, le livre de Madeleine Guibert est vraiment un livre important, il a ensuite été repris par Guiquer dans Les Nouveaux Marchands d'Hommes, mais c'est un des ouvrages fondateurs de la sociologie du travail intérimaire qui a été produit donc par Madeleine Guibert et quelques autres collègues sociologues femmes. Également, j'ai évoqué ici la classe ouvrière éclatée. Le livre de Michael Pior, je vais vous dire quelques mots. Et puis, tout à l'heure, je vais vous dire deux mots sur Lioncamp et sur Gorgeux et Mathieu. Et au fond, ce qui apparaissait dans la sociologie du travail précaire en général, mais aussi, j'y viendrai, dans la sociologie de la sous-traitance, au fond, c'est un certain nombre d'enjeux qu'on va retrouver dans la dynamique des plateformes, à savoir... évidemment, la dimension d'externalisation, externalisation de la main-d'œuvre, que ce soit, au fond, une main-d'œuvre externalisée à l'échelle du local, par exemple à travers le travail intérimaire, ou que ce soit, à l'époque, en tout cas, c'était une main-d'œuvre externalisée à l'échelle du national, comme, par exemple, toutes les formes de sous-traitance qui apparaissent déjà dans les années 70. Et à travers ce mécanisme d'externalisation, on trouve un certain nombre de mots qui, finalement, font écho à des choses qu'on rencontre aujourd'hui autour du capitalisme de plateforme. La question de l'ajustement, c'est-à-dire ne payer que le temps travaillé, la question de la mise à disposition, tout ce qui va relever justement d'une économie de la demande, d'un assujettissement finalement du travailleur à une demande qui est la demande de l'entreprise, y compris par exemple aujourd'hui en Angleterre autour des zero-hour contracts où les gens attendent pour travailler et sont dans une situation où finalement ils sont dans une situation de suspens dans l'attente du travail, mais aussi la question de la segmentation, hein, tout ce qui relève justement de la segmentation de fragments, de segments de l'entreprise qui sont externalisés en dehors de cette entreprise, de l'entreprise donneuse d'ordre. L'opacification, je vous renvoie à des tas de travaux qui ont été menés et qui montrent combien, finalement, le travail précaire et la sous-traitance sont des éléments d'opacification au sens où ils occultent, finalement, des formes d'illégalisme, des formes plus particulièrement, disons, violentes d'exploitation, etc., voire... on pourra en parler à un moment, le travail des enfants, je pense par exemple autour de ce qui s'était passé autour de Gap ou autre. Donc toute cette asymétrie, enfin, effectivement, qui rappelle finalement le caractère, disons, profondément inégalitaire et asymétrique du fonctionnement de ces dispositifs. Et donc, sur la segmentation, par exemple, le travail de Pior et Berger avait vraiment mis toute l'importance, notamment autour de l'idée que il y avait un caractère aussi sociologique, finalement, de ces segmentations, au sens où c'était des groupes spécifiques, hein, qui relevaient de la sous-traitance ou relevaient, finalement, de marchés secondaires. Et puis, j'insiste sur deux livres, le livre de Lioncamp, sur lequel je vais revenir dans quelques instants, mais qui déjà distribue quelque chose d'important, à savoir qu'il distingue, en fait, dès les années 80, deux logiques qui, finalement, vont avoir leur importance, des politiques de structure et des politiques d'embauche. C'est-à-dire que d'un côté, le travail intérimaire, il le renvoie à une logique d'embauche des travailleurs, avec cette dimension de précarité, d'incertitude, etc. Et de l'autre côté, des politiques de structure, au sens où des entreprises externalisent certaines de leurs structures. Enfin, bon, Le livre de Gorgeux et Mathieu me semble important. Il date de 81. C'est probablement un des premiers livres d'analyse qualitative de la sous-traitance en France. Avec ce point remarquable, c'est que, justement, c'est une analyse qualitative et Gorgeux et Mathieu déclarent qu'ils ne peuvent pas chiffrer la sous-traitance. On verra que, justement, les choses ont changé depuis quelques années. Donc, ce que je vais développer maintenant dans les deux parties qui vont faire mon propos, c'est montrer comment le numérique a provoqué, au fond, un saut qualitatif. Et je pense que c'est cette dimension. En fait, il y a une continuité, mais avec un effet de seuil, au fond, une sorte d'effet de saut qualitatif qui fait que, justement, ce qui était encore, on pourrait dire, quasi artisanal dans les formes et dans les types de dispositifs qui sont nés autour, disons, de l'intérim ou autour de la sous-traitance, eh bien là, a pu prendre un caractère beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus intrusif et beaucoup plus... une puissance, disons, de contrôle, de domination beaucoup plus grand. Et là, je vous ai mis un exemple. Donc, on est toujours dans l'externalisation de type traditionnel, mais cette fois-ci soutenue par le numérique. Et effectivement, là, je vous ai mis l'exemple d'Apple qui, finalement, a environ 43 000 employés, disons, aux États-Unis et qui, finalement, mobilise à distance plusieurs milliers, pas la centaine de milliers de salariés de Foxconn, mais une bonne partie de ces salariés de Foxconn, et qui par ailleurs également est dans une finalement intègre à la fois toute la logistique dans le processus de production, hein, dans une espèce de relation de contrôle des travailleurs, disons, sur place, et en même temps toute la possibilité d'organiser la demande dans le pays, dans les pays développés ou dans les pays riches, et d'organiser la demande dans un lien avec la production et dans un contrôle de la production en Chine. Donc il y a quelque chose là qui se passe de nouveau et qui va être un élément que je vais développer, c'est-à-dire finalement externaliser encore dans la première moitié du XXe siècle et avant le numérique, ça présentait des risques, il y avait énormément d'incertitudes. Aujourd'hui, on peut dire que la puissance justement du numérique est un moyen de surmonter justement cette incertitude parce que précisément, elle peut accompagner au plus près à la fois des travailleurs ou des entreprises. On verra ça dans les plateformes. Et donc, l'objet de mon propos, ça va être de plans. Au fond, un peu continuer la relation entre travail précaire et capitalisme de plateforme, et notamment, bon, déjà, il y a un mot, par exemple, qui pourrait faire le lien entre les deux, c'est par exemple le mot « gig economy », hein, l'économie des petits boulots, l'économie du cachet, dont on parle aujourd'hui, mais qui, effectivement, renvoie à une dimension, justement, d'intermittence, d'aléas, de prise de risque, etc. Et puis, dans un second temps, je vais essayer d'approfondir la question des plateformes, leur mode de fonctionnement et leur mode de domination, justement, leur mode de contrôle bien spécifique. Et en insistant sur un point Alors, je ne dis pas que c'est absolument une thèse absolument consistante en ce début de XXIe siècle, mais je voudrais insister sur une certaine tendance, une certaine orientation qui se dessine à travers les plateformes du côté du minage, hein, on reviendra sur Casili dont on parlait ou pas, mais qui relève du minage du salariat, minage au fond, et j'irais jusqu'à dire minage à travers la question de la subordination, de la dénégation de la subordination, mais aussi minage, je dirais, du travail lui-même et de son hétéronomie. J'essaierai de montrer comment. Donc, on rentre dans la première partie, donc travail précaire au capitalisme de plateforme. Bon, là, je vais insister sur un point important, c'est que dans ce livre, malheureusement, mais en même temps, le sujet est très vaste, je ne parle que d'un seul type de plateforme. Hein, notamment, il y a Nick Snirschek qui a écrit un livre qui s'appelle « Plateforme capitalisme », et dans ce livre, Snirschek fait une typologie des plateformes. Je vais reprendre très brièvement cette typologie pour vous expliquer de qui exactement je parle. Hein, parce que, encore une fois, venant de la question du travail précaire, c'est du travail dont j'ai voulu parler, et c'est sur le travail que j'ai voulu chercher et travailler, justement. Donc, il y a un premier type de plateforme qui sont les plateformes publicitaires, qui sont en fait des plateformes qu'on pourrait appeler du data mining, c'est-à-dire elle crible de la donnée, et au fond, vous les connaissez très bien pour les plus jeunes d'entre nous ici, c'est tout simplement Google et Facebook. Hein. Bon, les travaux récents, notamment de Susanna Zuboff, le montrent très bien dans son livre sur le capitalisme à l'âge de la surveillance. Elle montre comment, finalement, il y a toute cette dimension de data mining qui est de minage et de criblage de données à travers nos circulations sur la toile. La deuxième type de plateforme, c'est les clouds. Et là, donc on a affaire à un autre type encore de structure, puisque là, c'est des structures qui sont des intermédiaires autour d'un marché. C'est notamment Amazon Web Services ou Amazon Marketplace, qui sont les deux grandes figures, au sens où elles prêtent, enfin, moyennant finance, évidemment, elles louent, moyennant finance, leur savoir-faire et leur site à un certain nombre de petits indépendants qui utilisent ces clouds pour éventuellement vendre leurs produits, etc. etc. Je ne rentre pas dans le détail. Troisième type de plateforme, donc les plateformes industrielles, notamment il y en a une qui est très célèbre. C'est très spécifique, c'est notamment Siemens qui finalement prête, enfin loue, sa plateforme. Siemens a finalement acquis une compétence particulière dans l'accompagnement finalement des process, et donc elle loue à d'autres entreprises cette capacité qu'il a de accompagner des process. Donc vous avez une entreprise, et bien vous allez demander à Siemens d'accompagner tout votre process, à la fois au niveau technologique et au niveau de la production, de l'accompagner à travers le numérique, à travers une numérisation. Quatrième, les plateformes de produits. Là encore, les plus jeunes d'entre nous les connaissent bien. C'est par exemple Spotify, ou ça peut être aussi Zipcar, c'est-à-dire qu'il y a un produit que vous téléchargez. Hein, on est dans encore un autre type de structure. Il y en a des tas aujourd'hui qui émergent. Et puis, c'est de celle-ci dont je vais essentiellement parler, ce sont les plateformes maigres, ce que Snirchek appelle les plateformes maigres. Et là, en fait, on peut dire qu'on a un type de structure sur laquelle je vais revenir, qui relève de la triangulation, parce que c'est ça, à mon avis, un des thèmes notamment qui fait la continuité entre, disons, l'époque du travail précaire et les plateformes aujourd'hui. C'est cette figure triangulaire qui est extrêmement présente. Et donc, les plateformes maigres, en fait, c'est... alors, évidemment, il faut quand même un peu structurer le marché, mais à part ça, c'est globalement un algorithme, d'un côté des clients, de l'autre côté des travailleurs, et la plupart du temps, merveille, si je puis dire, les travailleurs sont propriétaires de leurs moyens de production ou de leurs moyens de travail, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de leur vélo, propriétaires de leur voiture. Éventuellement, ils peuvent s'endetter pour acheter leur voiture, y compris, en l'occurrence, à Uber, où ils sont propriétaires de leur ordinateur. Et par ailleurs, ils sont aussi propriétaires de leur appartement lorsqu'ils travaillent pour... ou locataires de leur appartement, mais en tout cas, ils en ont ponctuellement l'usage. Et c'est à travers leur c'est dans leur appartement à eux, au fond, qu'ils travaillent pour, par exemple, Amazon Mechanical Turk ou d'autres structures. Donc, c'est de ces plateformes-là dont je vais parler essentiellement. Et ce qui rapproche donc les formes précaires d'emploi de ces plateformes, justement, que ce soit à travers la sous-traitance ou que ce soit à travers le travail temporaire, il me semble ce qui est central, c'est au fond que le capitalisme, d'abord, a inventé une manière de faire à autrui finalement une partie de la tâche, et qu'il l'a structuré autour de ce dispositif de triangulation. C'est-à-dire que le travail intérimaire, on le sait très bien, c'est finalement une entreprise qui externalise auprès d'une autre sa main-d'œuvre. Hein, donc il y a quelque chose d'une triangulation qui est là. Et la sous-traitance est aussi un dispositif de triangulation entre une entreprise donneuse d'ordre et finalement une entreprise qui fait le boulot pour celle-ci et qui également mobilise ses propres salariés, avec, encore une fois, les effets d'opacification que l'on sait. Et cette dimension triangulaire, même si, évidemment, peut-être, elle n'épuise pas toute la structure, elle me semble importante, en tout cas, pour comprendre une certaine continuité de l'externalisation et également ce dispositif donc, qu'on va retrouver centralement dans les plateformes maigres, hein, les lean plateformes de Schnirschek, à savoir qu'il y a un algorithme et autour de l'algorithme, la plateforme est propriétaire de l'algorithme la plupart du temps, et autour de cet algorithme et de cette plateforme, eh bien, vous avez d'un côté des clients et de l'autre des travailleurs. Je reviendrai là-dessus. Évidemment, la plateforme n'embauche pas ces travailleurs, mais elle leur loue un service, à savoir qu'elle leur loue un algorithme, justement, et donc elle leur loue un logiciel. Donc là, on va revenir là-dessus, c'est vraiment un élément important. Et au fond, l'idée de triangulation, elle apparaît dès, finalement, les premières... mais il y a plusieurs manières de trianguler, si je puis dire, les choses. Là, pour Amazon, c'était la triangulation de ses stocks, puisque je vous rappelle qu'Amazon, avant d'avoir sa plateforme à lui, a d'abord été un intermédiaire entre des libraires et des acheteurs, et que, justement, il prêtait sa plateforme et sa structure à ses libraires et ses acheteurs, qui, eux, en tout cas les libraires, se payaient, si je puis dire, le stock, ce qui est un élément très important dans le coût d'un certain nombre de produits, l'enjeu de les stocker étant effectivement ayant un coût relativement important dans l'économie d'aujourd'hui. Donc, le numérique et les plateformes, donc, ce qui me semble significatif, c'est cette nouvelle puissance, hein, cette nouvelle puissance que va donner le numérique à des dispositifs qui existaient déjà. Ah mince, c'est pas grave, on voit très bien, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai systématisé un certain nombre d'éléments nouveaux qui affirment le processus de numérisation et qui affirment le processus de domination à travers la médiation du numérique. Premier élément, des possibilités multiples de triangulation. Ici, je vous ai mis un petit crobar, donc où vous avez en abscisse donc finalement la qualification du travailleur et en ordonnée le caractère local ou global du travailleur. Là, ce qu'on peut voir en tout cas, c'est combien la plateforme permet à la fois de travailler sur du local ou sur du global. C'est-à-dire par exemple Amazon Mechanical Turk. Amazon fait travailler des gens qui sont en Inde, qui sont éventuellement plutôt d'ailleurs dans le monde où on parle anglais, aux Philippines, en Inde, aux États-Unis même. Et donc il y a une puissance d'externalisation là qui est de la main-d'œuvre individuelle. Par exemple, ça peut être une secrétaire, un secrétaire ou une secrétaire de direction, ce type de... Ah non, pas pour Amazon, pardon. Non, je m'excuse. Donc ça, Amazon, c'est des petits boulots à l'international. Et puis, vous avez du côté, justement, des travailleurs les plus qualifiés. Là, vous avez aussi une mondialisation, une globalisation. Mais donc c'est là où apparaissent, justement, ces travailleurs qualifiés que peuvent mobiliser diverses plateformes, par exemple Freelancer ou Upwork, ou en l'occurrence, oui, ce sont les deux principales. Et là, effectivement, vous avez des secrétaires de direction, vous avez qui s'occupent de vos agendas, vous sous-traitez votre agenda auprès de ces secrétaires de direction. Vous avez éventuellement des designers, des créateurs auprès de lesquels on externalise un certain nombre de tâches, mais vraiment d'activités et de compétences professionnelles. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des gens en Ukraine, vous pouvez effectivement avoir encore des gens en Inde, aux Philippines, etc., qui travaillent pour la plupart du temps, d'ailleurs, des entreprises nord-américaines. En bas, vous avez des gens que nous connaissons bien, qui la plupart du temps, parce que justement, comme dit Casili, ce sont les travailleurs ostensibles des plateformes. Bah, c'est effectivement les chauffeurs de taxi, les livreurs à vélo, mais aussi de plus en plus, d'ailleurs, en tout cas dans divers lieux, on voit des publicités qui apparaissent, tout ce qui va relever des plateformes de ménage. Les hommes et les femmes de ménage, aujourd'hui, peuvent être gérés par des plateformes ou éventuellement ces plateformes de petits boulots qui sont en train d'apparaître aujourd'hui, notamment la plus célèbre étant TaskRabbit, dont vous avez peut-être entendu parler. En tout cas, TaskRabbit a été racheté par IKEA. Évidemment, donc c'est une entreprise d'artisans faisant, au départ, TaskRabbit, c'est le boulot du lapin, donc c'est vraiment l'idée de petits boulots artisanaux divers. Et donc, après avoir s'être développé aux États-Unis et avoir ensuite un peu inondé en partie le monde développé, eh bien, Amazon a racheté TaskRabbit. Évidemment, vous comprenez pourquoi. Ça permet de faire le lien. Et là, il y a tout un enjeu de ce point de vue-là autour de ce qu'on peut appeler aussi le dernier kilomètre, qui est un enjeu fondamental pour le capitalisme contemporain. Eh bien là, vous avez des gens qui viennent faire le petit boulot. Vous montez, si vous n'avez pas le courage ou la compétence pour monter votre lit ou votre armoire, eh bien, vous faites venir IKEA fait venir ces travailleurs qui sont, là encore, prenons-y garde, ne sont plus des salariés, mais des indépendants, puisqu'ils sont dans une plateforme. Également, l'autre grande figure qui est en train d'émerger aujourd'hui, du côté des petits boulots, vous avez Mano Mano, vous avez comme ça divers, vous avez peut-être entendu parler, peut-être plus que moi même de tout ça, mais vous avez aujourd'hui des plateformes pour éventuellement, non seulement, j'y reviendrai, des artisans, mais éventuellement des gens qui sont plutôt des amateurs, ayant quelques compétences en matière de bricolage. Et dernier, alors c'est les high skills, donc c'est-à-dire bon les personnes ayant disons des qualifications professionnelles élevées. En l'occurrence, en France, on en voit assez peu parce que nous avons encore des régimes qui nous permettent d'être protégés de ça. Je pense par exemple pour ce qui concerne les performing artists. Donc finalement, ces performing artists, ils émergeront plutôt au statut d'intermittent, enfin à la convention des intermittents du spectacle, enfin pour une partie. Hein, donc on voit que là, en tout cas à l'international, il y a des formes, effectivement, là encore, de travailleurs indépendants, de nouvelles figures de travailleurs indépendants qui sont étroitement liées au monde du commerce, de l'art ou du soin, et qui sont, c'est ça quand même l'important, qui se passent par la médiation de plateformes. Hein, parce que bon, il y a toujours... Ah pardon, attendez, je continue sur mon tableau. Donc, triangulation, là j'ai expliqué un peu la variété des dispositifs qui ont été créés depuis quelques années, disons, de par le monde, et à la fois au local et à l'international. Mais également, point important, des possibilités d'individualisation. Effectivement, c'est dans le cadran, là, dans le cadran de gauche, où dans le cadran en haut, aussi à droite, c'est-à-dire finalement ce qu'on avait déjà rencontré dans le travail intérimaire, là, il prend un caractère extrême, c'est-à-dire finalement on a un éclatement des petits indépendants, de figures de petits indépendants qui sont éclatés, hein, mais vraiment, et même on pourrait dire, il y a une sorte de dimension de vaporisation finalement, on pourrait dire pratiquement de la force de travail. Et j'ai employé le mot insulation parce que justement, c'est pas seulement une individualisation, c'est pour insister au fond sur le fait que c'est pas seulement un individu, c'est une unité de production en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui travaille chez lui, par exemple. Hein. Donc, il n'est pas seulement individualisé, il est aussi dans un contexte où finalement, il est une unité, voire une unité close sur elle-même, c'est-à-dire dans une maison pour plusieurs heures. Parfois très longtemps, dans des longues durées de travail. Et évidemment, le critère essentiel, j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est l'auto-entrepreneuriat. Et effectivement, comme je l'ai déjà dit, c'est toute cette externalisation des moyens de travail, au sens où finalement, le travailleur est propriétaire de ses moyens de travail. Alors, il y a des nouvelles puissances. Première puissance, là, Casilli en a beaucoup parlé, notamment autour de son néo-tâcheronat. finalement, c'est la question d'une miniaturisation et d'une fragmentation à l'extrême des tâches. Et je reviendrai sur ce point, il est important parce que finalement, ce que permet la numérisation, d'autant plus que ce sont des tâches elles-mêmes numérisées, c'est leur fragmentation à l'extrême. Finalement, prenez une traduction, vous pouvez la découper à l'infini, dans une certaine mesure, faire quelques mots ou quelques phrases des milliers de personnes, plutôt que de la faire à une seule, à une seule personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je reviendrai sur cette question, même j'ai pris cet exemple un peu, si je puis dire, aléatoirement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous faites une phrase de traduction, vous n'avez pas le sentiment de faire un métier de traducteur. Si vous faites un livre entier, vous êtes un traducteur. Si vous fragmentez un livre entier en un millier de traducteurs, chaque traducteur, il n'est pas sûr qu'il ait le sentiment d'être un professionnel de la traduction. Et là, il y a vraiment un enjeu central dans la puissance de, j'y reviendrai, dans la puissance de minage, justement, du travail et de l'hétéronomie liée aux plateformes. Et donc, alors, cette miniaturisation des tâches, on peut en donner quelques exemples. Ça peut être, par exemple, c'est la thèse de Casilli, là. Il a vraiment beaucoup, beaucoup argumenté là-dessus. C'est-à-dire, finalement, l'idée que les machines sont des machines apprenantes et que, justement, elles ont besoin d'apprendre. Donc, derrière la machine qui apprend, il faut des êtres humains. C'est-à-dire, par exemple, pour qu'une machine puisse distinguer la différence entre du salé et du sucré, distinguer des objets, etc., elle doit l'apprendre. Et ça, seuls des humains peuvent lui intégrer cette donnée. Mais, par exemple, il y a d'autres cas de figure, lire des tickets froissés, par exemple, des tickets de caisse froissés, ça peut intéresser quelqu'un qui veut savoir ce que fait son concurrent. Lire des tickets de caisse froissés, une machine ne sait pas le faire. Donc il faut que ce soit des êtres humains qui lisent ces tickets, etc. etc. Bon, il y a comme ça toute une... des tas de micro-tâches qui vont être, encore une fois, des traductions, des choses comme ça, des tas de micro-tâches qui vont pouvoir être diffusées auprès des talkers. Et l'important, effectivement, le concept important, c'est bien, je crois, le concept de crowd-working, c'est-à-dire on fait travailler des foules. Et effectivement, on fragmente pour faire travailler des foules. Il y a un lien entre la fragmentation et la possibilité d'un travail des foules. C'est pas les foules qui suscitent le travail, c'est plutôt le morcellement du travail qui provoque le travail des foules. Et je pense que c'est important de le noter. Et l'argument central, en tout cas, quand je me suis mis à travailler sur ces questions de plateforme et de numérique, je crois qu'un des arguments centraux de la puissance du numérique, c'est sa puissance de lier ce qui est délié. En l'occurrence, ce qu'on a pu voir à travers l'externalisation, c'est que le capitalisme avait délié, avait fragmenté. Sauf que c'était un peu risqué de trop délier, trop fragmenter, parce qu'évidemment, il y a ce que, Coase appelle les coûts de transaction. Hein, c'est-à-dire, finalement, externaliser, ça expose à des risques. On n'est pas sûr de celui qui vous fabrique le produit, etc. On n'est pas sûr du produit, etc. Bon. En tout cas, c'était un risque encore possible au XXe siècle. Au XXIe siècle, ce risque disparaît puisque finalement, vous pouvez accompagner votre sous-traitant, vous pouvez vous ingérer éventuellement, y compris dans ces dispositifs comptables, etc., etc., à travers la numérisation. Et donc là, il y a vraiment une puissance intrusive et il y a une puissance intrusive à distance qui est à la fois fondamentale autour de la sous-traitance, mais on va le voir également autour du fonctionnement même de la plateforme. Parce que justement, ce qui va caractériser la plateforme, c'est cette possibilité de monitoring rapproché du travailleur. Et puis, c'est justement ce point-là. Des maillages des territoires et... la possibilité nouvelle de mailler des territoires et de monitorer les travailleurs à la fois à distance et en proximité. Bon, ce qui est remarquable quand même dans ces plateformes de livreurs ou dans ces diverses plateformes que l'on connaît maintenant, c'est que précisément, il y a effectivement l'algorithme qui va anticiper et finalement prévoir un certain nombre d'éléments que ne contrôle pas justement le travailleur et justement lui enjoindre et trouver les conditions pour lui enjoindre de faire un certain nombre de tâches, mais en même temps, ce travailleur va être monitoré par un GPS. Hein. Si vous prenez par exemple le cas de de ce qu'on appelle les piqueurs dans les usines d'Amazon, dans ces fameuses, pas dans les usines, dans les fameux entrepôts d'Amazon, ces piqueurs, au fond, ils poussent des petits chariots, ils ont avec eux, disons, un appareil électronique, un moniteur, justement, avec qui ils sont en interaction, et c'est ce moniteur qui leur indique le chemin pour aller chercher tel ou tel objet, ils le scannent, et ainsi de suite. D'ailleurs, un élément aussi que je trouve très intéressant, sur lequel il faudrait se pencher, c'est que même ces magasins, ils fonctionnent sur une distribution chaotique. C'est-à-dire que finalement, j'ai appris ça, Amazon ne classe pas les objets. Il les met là où ils arrivent. Donc la seule chose, c'est que justement, grâce au scannage et grâce au monitoring, en fait, à tout moment, il peut savoir où est un produit grâce à cette dimension. Donc on voit comment... il y a une puissance là de gérer du chaos. Alors, je suis pas allé, j'ai pas poussé ma réflexion là sur le côté chaos, mais je pense qu'il y a des choses très intéressantes sur la manière dont aujourd'hui on va faire travailler les gens à partir d'éléments éventuellement chaotiques. C'est-à-dire qu'on peut organiser des chaos. Hein. C'est ce que fait dans une certaine mesure pour l'instant Amazon avec des objets, avec des articles, mais évidemment on pourrait imaginer des choses concernant les humains. Et donc, il y a effectivement la gestion algorithmique, ça, c'est ce qu'on sait bien maintenant, et qui est une logique d'anticipation sur le comportement du travailleur, mais ne l'oubliez pas aussi sur le comportement du client. C'est-à-dire que, par exemple, Uber sait éventuellement à quel niveau en est votre batterie sur votre iPhone, quelle est la marque de votre iPhone, quel est le niveau de votre téléphone. Éventuellement, il peut créer des statistiques sur vos horaires de sortie, etc., etc., et produire des profilages. Et par ailleurs, il a également d'autres... Il y a un autre... j'ai oublié... en tout cas, cette dimension, effectivement, d'anticipation des comportements, de prévision autour de l'enjeu d'un profilage à la fois du travailleur, mais également du client. Oui, il peut également savoir, ce qui est très, très important, enfin, là, je parle du côté du client, mais c'est évidemment beaucoup plus de choses encore du côté du travailleur. Mais par exemple, il peut savoir jusqu'où vous pouvez aller dans une éventuelle dans le coût de vos courses. C'est-à-dire finalement, si vous voulez, jusqu'où vous pouvez, on peut exiger de vous un prix concernant une course, puisque bon, il a des éléments statistiques d'information. Donc voilà, il y a tout un ensemble de données qui sont à la fois acquises sur le client, mais évidemment sur le comportement du travailleur. Que d'ailleurs vient également aider un peu le client, puisque dans l'angle mort de l'algorithme, vous et moi, éventuellement, il peut nous arriver de noter le chauffeur, ce qui est finalement de donner des indications à l'algorithme sur le comportement de ce même chauffeur dans l'angle mort de l'algorithme. Alors, ce qui est très caractéristique de ce capitalisme de plateforme, là maintenant on est vraiment dans la plateforme, c'est la dénégation de la subordination. Hein. Dénégation de la subordination, ça veut dire qu'il n'y a pas de salarié. Il n'y a pas de salarié et l'argument central des avocats d'Uber, hein, mais tous les avocats de toutes les autres plateformes développent à peu près le même argument, c'est nous faisons de l'argent avec des licences de logiciels. C'est-à-dire que ce que fait Uber, ce n'est pas faire travailler des gens, c'est aider des gens à travailler en leur louant son logiciel. Donc là, il y a une sorte de retournement. Là, quand je parlais de déjà un élément de minage, on voit bien qu'il y a un retournement du discours autour de cette idée d'intermédiation et non pas de subordination. Deuxième
Deuxième élément sur lequel je vais revenir, c'est miner les professionnalités par la possibilité de mobiliser des amateurs. J'évoquais ça, par exemple, à propos de Mano Mano ou d'autres petites plateformes de travail artisanal, c'est-à-dire qu'on peut faire travailler éventuellement des professionnels et des amateurs. Et il y a de plus en plus, j'y reviendrai à la fin avec des exemples encore plus flagrants, il y a de plus en plus dans le capitalisme de plateforme l'idée qu'on peut mobiliser des amateurs, y compris d'ailleurs des gens qui ont pratiquement aucune compétence. C'est le cas d'Amazon Mechanical Turk. Mais globalement, on verra qu'à plusieurs reprises, la figure de l'amateur apparaît dans ce néo-capitalisme et dans ce type de capitalisme. Et également, je vais y revenir aussi, une tendance à miner la représentation hétéronomique du travail, au sens où, je vais y venir dans le deuxième temps, la logique de ces plateformes, c'est d'essayer, et ils y arrivent en partie, de faire travailler les gens n'importe quand et à n'importe quel moment. C'est-à-dire de finalement subvertir une bonne partie de ce qui a été caractéristique de l'hétéronomie et de la temporalité fordiste, c'est-à-dire que on arrêtait le travail, c'était terminé, c'était clair, c'était net. Et d'ailleurs, si vous voyez des sorties d'usine, vous comprenez que les gens y couraient pour sortir de l'usine. Aujourd'hui, justement, on va le voir, le propre des plateformes, c'est essayer de faire travailler des gens dans une temporalité beaucoup plus large et beaucoup plus indéterminée. La question, à chaque fois, il y a des mots comme ça pour moi qui font de plus en plus sens, indétermination, quelconque. On fait travailler n'importe qui, n'importe quand. En fait, finalement, on pourrait dire qu'un des fantasmes du capitalisme de plateforme, c'est faire travailler n'importe qui, n'importe quand. Premier exemple de ce minage, non plus seulement de la subordination, mais également de l'hétéronomie, c'est-à-dire essayer de faire disparaître la sensation. Je ne dis pas qu'il y arrive, mais il y a quelque chose dans le morcellement qui dénie le travail lui-même, quoi. Plus on infinitise le travail, et plus finalement la consistance de ce travail s'évanouit. Et là, j'ai donné deux exemples que j'emprunte à Pauline Barreau et à Luc Sigalo-Santos sur... Alors, bon, c'est une espèce d'Amazon Mechanical Turk français, mais enfin bon, il y a vraiment beaucoup moins de monde à Full Factory qu'à Amazon. Mais donc c'est encore une fois du côté du signe plus que du côté d'une démonstration absolue que c'est ce qui est en train de nous arriver. Mais c'est quand même l'argument. Les arguments sont eux-mêmes en eux-mêmes très intéressants. C'est-à-dire que le patron de Full Factory, qui est encore une fois une plateforme de petit boulot, à la française, puisque c'est une plateforme française, un des arguments qu'il développe, c'est peut-être son fantasme, mais même si c'est son fantasme, c'est intéressant quand même de le noter, il y a des gens à qui ça plaît de se dire « à minuit, j'ai une heure devant moi, je vais faire ça de minuit à une heure ». Donc il y a l'idée, l'idée de Full Factory, finalement, de faire travailler les gens n'importe quand, c'est-à-dire par exemple dans une salle d'attente ou par exemple en attendant un bus. Finalement, au lieu de faire un petit jeu à la gomme, à la place, vous pouvez faire un petit boulot. Vous pouvez faire un tout petit boulot miniaturisé et au fond, c'est en ce sens-là d'ailleurs qu'il y a une subversion de l'hétéronomie du travail. Éventuellement, vous pouvez y trouver presque, je module mon propos, mais vous pourrez presque y trouver quelque chose de récréatif éventuellement dans ce petit boulot. Donc il y a cette tentative, cet enjeu-là qui apparaît à l'intérieur du capitalisme de plateforme. Et donc les gens qui travaillent à Full Factory, donc qui sont des indépendants, évidemment, qui s'appellent des fouleurs. Bon, là, vous avez un type qui raconte comment sa relation au travail, enfin, à ses petits boulots. Et voilà ce qu'il dit, c'est un passe-temps pour compléter des heures d'inactivité. Par exemple, quand je suis devant la télé, j'ai mon ordinateur devant moi, et puis après je fais des tâches, voilà, quand je suis en repos. Donc finalement, là, il faut remarquer quand même cette espèce de retournement de toute l'histoire du XXe siècle et de l'histoire du salariat. C'est-à-dire que finalement, les gens se sont battus pour avoir du temps libre séparé du temps de travail, et là, il y a quelqu'un qui vous dit « moi j'ai du temps libre et je fais du travail, quoi. Je m'occupe à faire du travail ». Donc voilà, c'est toutes ces formes de subversion me semblent extrêmement importantes à saisir. Et là, également, un autre exemple. Je ne vais pas rentrer dans le détail de Click and Walk, qui a eu quelques problèmes quand même, parce que la justice lui est tombée dessus. Donc, elle s'est retrouvée à devoir finalement requalifier ses indépendants, ses petits indépendants, ses micro-indépendants, en salarié. Ça lui a vraiment fait peur, la patronne de Click and Walk. Mais je ne rentre pas dans le détail. Voilà l'objectif de Click and Walk. C'est intéressant. Je vous lis le petit texte, là. Pour réaliser ces prestations, donc c'était des prestations qui se passent dans des... En fait, c'est une sorte d'entreprise de sondage de foule. Ce sont des foules qui sondent. N'importe qui peut le faire. Vous et moi, on peut se mettre à prendre l'appli de Click and Walk et puis se mettre au boulot, sans être vraiment payé, évidemment. Hein, on touche. C'est des petits cadeaux, en fait. C'est plutôt des cadeaux qu'une rémunération. Pour réaliser ces prestations à la demande de clients qui peuvent être de grands groupes, L'Oréal, Auchan, Decathlon, ça, c'est des juristes qui disent, c'est les juges qui ont résumé ce qu'est Click and Walk. La société recourt au service de la communauté des clickwalkers, c'est-à-dire des contributeurs consommateurs qui, après avoir téléchargé une application gratuite sur leur smartphone, participent à des missions, soit à leur domicile, soit à l'extérieur, dans la rue, street data, ou dans des magasins, store data, répondre à des questionnaires, réaliser des sondages ou des photographies dans les magasins, vérifier la lisibilité des produits ou la qualité de l'accueil, jouer, c'est merveilleux, au client mystère, donc... observer les comportements des consommateurs, donner un avis. Donc, c'est là aussi la manière dont ils jouent sur le ludique, dans une certaine mesure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes en train de faire vos courses et vous avez l'appli, et en même temps que vous faites votre course, finalement, vous donnez des informations sur la manière dont le produit est sur les linéaires, etc., etc. Et on voit comment, justement, j'insiste sur ce rapport au vernaculaire. On verra que ça se radicalise dans d'autres formes, finalement, d'activité. Hein, c'est cette idée, au fond, qu'à tout moment, n'importe qui, finalement, peut se mettre à faire un petit boulot dans sa quotidienneté. Hein. Et c'est en ce sens-là que, finalement, il y a bien un mode de colonisation là, d'une temporalité, qui est une temporalité de l'intime, qui est une temporalité du quotidien, mais ce que nous connaissons déjà tous un tout petit peu dans nos propres activités d'enseignants, chercheurs, etc., etc., où la dimension, finalement, des limites de la temporalité deviennent de plus en plus extensibles, quoi. Voilà, donc également, là je reviens sur, alors c'est pas Mano Mano, c'est Freebies, ça s'appelle, bon c'est pareil, un petit boulot, confiez vos petits travaux rapidement, en toute sérénité, donc ça c'est ce qu'on propose évidemment à des bricoleurs. Justement, ce qui est intéressant, c'est que là encore, il y a une sorte d'extension de l'artisan au bricoleur, et donc des bricoleurs peuvent venir chez vous faire quelques petits boulots. Alors bon, après, libre, il faudra voir s'il vous le fait bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans le mécanisme même de la plateforme, c'est comment il va mettre en concurrence des figures de professionnalité, des vrais artisans, et éventuellement des bricoleurs, ou tout simplement, et ça c'est encore plus intéressant, c'est que finalement, il y a des gens, là on pourrait retrouver des questions avec le MOS, finalement, il y a des gens qui, au XXe siècle, ils se rendaient des services mutuellement. Ils n'étaient pas particulièrement doués pour le travail manuel, mais en tout cas, ils s'aidaient. Ou, je pense par exemple au livre de Florence Weber qui s'appelle « Le travail à côté », des ouvriers dans les années 50 qui s'aidaient, qui coopéraient. Bon, ils faisaient ça gratuitement. Ils étaient dans du Marcel Mauss, justement. Ils étaient dans du don et du contre-don. Or, aujourd'hui, ce que permet la plateforme, c'est vous allez chez votre voisin, mais à la place de... Enfin, éventuellement... Sauf que votre voisin ou votre voisine, bon, bah, vous, ils le marchandisent comme étant finalement un indépendant de la plateforme et vous allez faire le boulot, évidemment moyennant éventuellement une petite somme, mais en même temps tout ça est marchandisé par la plateforme. Et là il y a vraiment quelque chose qui à mon avis est très significatif de cette puissance du numérique, c'est-à-dire de faire travailler, de faire travailler les espaces qui n'ont pas été historiquement institués comme espaces de travail, c'est-à-dire justement des espaces de bricolage, des espaces de petits boulots, etc., etc. Et l'autre exemple, un exemple là qui est aussi, alors là, beaucoup plus concret et beaucoup plus massif, c'est par exemple les plateformes de photographes, ou de photographie plus exactement, où finalement, le photographe quelconque, qui était là sur un événement, etc., peut déposer ses photos avec des professionnels et éventuellement, ou éventuellement de jeunes professionnels qui veulent quand même vendre leurs photos ou être visibles. Et donc, vous avez comme ça des espaces qui se constituent où voisinent des professionnels, des amateurs dans un marché, dans un nouveau type de marché, si je puis dire. Et puis là, je vous ai mis... alors bon, ce jeune homme, je ne le connais pas. Je vous avouerai, j'ai jamais suivi disons, les déballages de Ryan Grocery. Mais je suppose que les plus jeunes d'entre nous connaissent bien ça, c'est-à-dire notamment la manière dont, justement, quelque chose de pratique vernaculaire, qui sont des pratiques, justement... où on se met en scène, par exemple, en montrant ses achats, etc., etc., finalement, peuvent faire l'objet, à un certain moment, de rémunération. Rémunération d'abord au pourboire, hein, et donc autour du fait que, finalement, en fonction du nombre de vues de votre site, vous allez être rémunéré au pourboire. Et puis, éventuellement, eh bien, si vous avez pas mal de succès, eh bien, justement, les mêmes, d'ailleurs, ça va être L'Oréal ou des choses comme ça, eh bien, vont envoyer leur personnel, des spécialistes de marketing, et vous expliquer, voilà, comment mettre en scène vos habits, vos achats, et de manière, effectivement, à, là, promouvoir un certain nombre, éventuellement, d'articles. Et je ne parle pas, évidemment, de ce que vous connaissez encore mieux, toutes ces nouvelles figures de... YouTubeurs, soit du côté de l'humour, soit du côté d'enjeux divers, de vie privée ou autre, qui finalement relèvent de plus en plus d'un espace marchand et de forme, disons, de marchandisation de leur mise en scène et de leurs activités. Voilà, donc... bon, là, j'ai mis un résumé. Bon, de toute façon, j'ai dit tout ça... j'ai évoqué tout ça. Peut-être le dernier point, c'est la question du rapport au jeu. D'abord, bon, il y a dans les plateformes de plus en plus une logique de gamification, hein, qui est un héritage finalement du discours du partage. Hein, si on est entre potes, quoi. Mais bon, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais ils essaient de continuer à jouer sur cet imaginaire. Mais il y a également, au fond, la manière dont le jeu lui-même devient évidemment un objet marchand. Bon, et encore une fois, pour les nouvelles générations, un espace comme Twitch peut apparaître comme une illustration de cela. Mais bon, je ne rentre pas dans le détail, mais par exemple, il y a Lego. Mais alors bon, ce n'est pas une plateforme, donc ce n'est peut-être pas la peine d'insister là-dessus. Lego, en tout cas... juste une petite digression, Lego, qui n'est pas seulement producteur de ces petites pièces pour les enfants. En fait, Lego s'adresse aussi aux adultes. Et justement, Lego a créé finalement des managers pour... comment dire, du personnel de management... pour les amateurs, justement. C'est-à-dire que finalement, un certain nombre d'amateurs peuvent fabriquer des Lego, éventuellement, donc on laisse finalement un kit, les gens fabriquent eux-mêmes des Lego et des nouveaux types de Lego, et éventuellement, ils peuvent avoir des copyrights ou simplement on va éventuellement leur donner une gratification, ou en tout cas récupérer en tout cas ce que les amateurs ont pu produire sur sur ces espaces que l'ego leur met à leur disposition. Voilà. Alors je vais terminer là-dessus parce que je crois que j'ai suffisamment parlé. Éventuellement, il y a un bonus si vous, mais pas peut-être après, éventuellement si ça fait l'objet de discussions sur les mobilisations, notamment autour des plateformes. J'avais évoqué ça, mais bon, éventuellement on pourra en parler après. J'ai en tout cas deux slides éventuellement. Mais je veux conclure sur cette question qui a été un peu le centre de mon propos et qui en fait l'unité, sur la question de la colonisation du quotidien. Donc en fait, là, finalement, je suis retombé un peu après coup, d'ailleurs, il faut bien le dire, sur la manière dont Henri Lefebvre et Guy Debord, finalement, dans les années 60, développent l'idée d'une colonisation du quotidien. Et donc il y a cette phrase de Debord, là, que je vous ai mise, « Cette société tend à atomiser les gens en consommateurs isolés. La vie quotidienne est ainsi vie privée, domaine de la séparation et du spectacle. » Et au fond, bon... quand on regarde et quand on réfléchit un peu à cette idée de colonisation du quotidien, on peut aussi penser autour du thème, enfin c'est surtout chez Lefebvre qu'il y a ce thème-là, de la rareté du temps. Et je pense par exemple, si vous imaginez des ouvriers qui font les 3-8 ou les 4-8, comment leur temps peut être dégradé par le travail, c'est tout cet univers-là quand même qui était aussi... Alors il y a l'univers de Debord du côté de la communication, de la consommation, mais je crois que aussi c'est aussi ce poids du travail sur la vie privée, dégradant de la vie privée, au sens où l'hétéronomie finalement rentre dans la vie privée. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une autre logique qui est en train de se passer. Justement, c'est une colonisation qui est beaucoup plus interstitielle, dans un monde où la durée du travail est évidemment beaucoup moins... le temps de travail a beaucoup diminué, et y compris le temps de travail dans une vie d'être humain a beaucoup diminué. Donc on voit apparaître des formes de colonisation interstitielle de l'intime et au fond, une dérégulation justement à travers ces petits boulots qui peuvent vous tomber n'importe quand, à n'importe quelle heure éventuellement de la nuit. Une dérégulation au fond des frontières historiques du temps de travail et justement du temps hétéronomique. Justement. Et le deuxième point au fond, c'est que c'est autour de la question du vernaculaire. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose dont on doit être, auquel on doit être extrêmement attentif. C'est comment ces nouvelles technologies sont en train de nous donner. Et je pense que bon, c'est tout à fait positif. Hein. Je ne suis pas un anti-numérique. Je pense que bon, il faut faire un peu attention. Et ce que j'invite à être prudent, c'est sur les usages capitalistes qui émergent sur le numérique. Mais donc il y a une puissance de créativité qui est en train d'émerger, notamment justement sur la question de YouTube, dont je ne suis pas particulièrement un spécialiste. Il y a quelqu'un comme Laurent Salard, que je vous invite à consulter, qui a vraiment travaillé sur YouTube et qui est vraiment très intéressante. Justement, donc, il y a une puissance de créativité qui est en train d'émerger et qui donne justement des nouvelles formes de créativité aux foules, et aux individus et aux foules. Mais il s'agit d'être très vigilant sur la manière dont aujourd'hui le capitalisme est en train de se ressaisir de cette créativité pour en faire une source de profit et éventuellement une source nouvelle de marchandisation de la quotidienneté. Hein. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a... Alors, je ne sais plus si ma traduction est tout à fait exacte, mais en tout cas, l'idée est vraiment bien dans la citation. Au fond, il y a cette phrase de Mackenzie Ward qui a écrit « Hacker Manifesto ». En gros, il résume son propos autour de l'idée « Nous avons tous les contenus et ils ont tous les supports ». Effectivement, je pense que ce qui est vraiment central aujourd'hui dans le capitalisme de plateforme, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que un des arguments est... un des types de revendications, si je peux me permettre de lancer des revendications, ce serait comme justement la réappropriation du support, y compris éventuellement du support communicationnel que représente Google ou que représente Facebook, dans une certaine mesure. On pourrait imaginer de redevenir des propriétaires des moyens de production. Alors là, bon, je délire complètement, mais bon, en tout cas, ça peut être une idée régulatrice, si je puis dire, que nous redevenions les propriétaires de ce moyen de communication tout à fait fondamental que sont Google ou Facebook. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien ça, c'est que finalement, les plateformes sont les propriétaires du contenu, hein, plutôt, sont les propriétaires du support. Elles sont constamment, d'ailleurs, les intermédiaires et les supports de nos intermédiations, hein, elles sont vraiment justement les intermédiaires de notre vie quotidienne, hein, comme telles, et elles nous dépossèdent finalement de ces contenus, ou en tout cas elles les marchandisent, elles les contrôlent de plus en plus comme propriétaires du support. Et donc là, il y a vraiment tout un enjeu, je trouve, dans les formes de minage justement de ce que j'ai appelé le vernaculaire et finalement aussi les figures amateurs. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces questions de plateforme.